réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si vous nous rejoignez, merci d'avoir choisi Un autre jour est possible sur France Culture pour commencer cette journée du mardi 7 juin 2016. Écoutez le silence, comprendre le silence. Depuis hier, nous sommes avec l'historien Alain Corbin autour d'une histoire du silence dans un instant, le deuxième épisode de notre série. Et puis, nous parlerons d'amour, de cinéma et de romantisme, aujourd'hui en deuxième partie, avec Suzelle Pietri, qui est la directrice du Festival du film d'amour de Cabourg, qui s'ouvre demain. Festival créé par Gonzague Saint-Brie, qui viendra normalement avec elle. On les attend. Merci donc d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, soit en direct à la radio le matin, soit en passant par le podcast. Chut, c'est parti, un autre jour est possible. Écoutez le silence en compagnie d'Alain Corbin, historien, toute cette semaine. Aujourd'hui, deuxième épisode. Bonjour Alain Corbin.
Bonjour.
Sommes-nous tous égaux devant le silence ?
Certainement pas. Il y a une culture du silence. Et donc, lorsqu'on parle de culture, il y a évidemment apprentissage. Et les êtres sont inégaux parce qu'ils sont inégaux face à l'apprentissage du silence.
Comment apprend-on le silence ?
Ce sont des disciplines. Ce sont des disciplines qui étaient très développées au XVIIe, XVIIIe, XIXe et même jusque vers 1950 à l'école. Moi, j'ai connu dans mon enfance des silences intenses. L'obligation de se taire évidemment à l'école, pendant la classe, mais aussi de se taire au réfectoire quand on est pensionnaire, avant le dessert au moins, l'obligation de se taire au dortoir, l'obligation de se taire dans les rangs, dans les institutions catholiques, l'obligation de et à la campagne, dans les églises, de se taire, notamment à la campagne, mais partout, de se taire autour même des édifices. Donc cet apprentissage était très lourd, était très fort. Et jusqu'en 1960, disons, lorsque, au fond, les pédagogues ont dit il faut faire parler les enfants, il faut les faire s'exprimer, etc. Là, il y a un tournant qui fait que le silence devient difficile pour l'enfant. Donc, et ensuite, l'enfant grandit et il n'a pas eu cette discipline du silence. Donc, il faut qu'il la réapprenne, en quelque sorte, qu'il réapprenne le silence, soit... Aujourd'hui, il y a une grande mode des réunions de méditation avec des gourous, des psychologues. Il y a l'influence des bouddhistes, que sais-je encore. Hein. Donc, il y a toute une série de pratiques qui montrent qu'il y a, en quelque sorte, un désir d'apprentissage du silence.
Mais, Alain Corbin, ne pas parler, ça ne veut pas dire qu'on est plongé dans le silence. On peut ne pas parler en classe et entendre le professeur parler, la pluie tomber, quelques échos du village ou de la ville.
Oui, mais alors là, ce n'est plus du silence, si vous voulez. Si vous écoutez attentivement le professeur parler, il n'y a plus de silence entre vous et lui. Il n'y a plus de silence en profondeur. Alors évidemment, on pourrait dire, et à juste titre, que toute parole vient du silence. À chaque fois que vous parlez, il y a eu quelques instants, peut-être infinitésimaux, dans lesquels vous avez préparé ce que vous allez dire. Donc toute parole vient du silence. De même que l'écriture vient du silence inspiré par la page blanche. Mais dans le problème que vous posez, c'est-à-dire, est-ce que l'enfant peut à la fois entendre les bruits et puis écouter le professeur ? Non. En revanche, il est très vrai que, traditionnellement, avant notre période toute contemporaine, le silence pouvait être révélé par des bruits. Par exemple, le silence de quelqu'un, un enfant enfermé dans sa chambre, est révélé par des bruits assez vagues, d'ailleurs, de la voix du père. Michel de Certeau a développé ça dans ses travaux sur le quotidien, ou par les voix des animaux, des oiseaux qui sont à proximité de la chambre. Mais bon, ça veut dire que le silence est plutôt révélé, il n'est pas trahi, il n'est pas détruit par ce type de bruit. Contrairement à l'écoute du professeur, parce que l'écoute du professeur, c'est quand même trop prégnant.
Non, mais je voulais dire par là, est-ce que le silence n'est brisé que par la parole ? Il y a aussi tous les bruits de la vie, de la nature ?
Non, oui, bien sûr. La foudre brise le silence. Et tous ceux qui étaient dans la ligne de ce qu'on appelait à la fin du XVIIIe siècle le code du sublime, c'est-à-dire tous ces bruits effrayants de l'orage, de la tempête, de la montagne, etc., brise le silence. Mais il y a des bruits dans la nature qui, pour celui qui se promène dans la campagne, notamment, il y a des bruits qui révèlent le silence. C'est ce dont était très friand Henry David Thoreau lorsqu'il se promenait dans la campagne. Pour lui, le silence était absolument essentiel, mais il fallait qu'un moustique, en quelque sorte, le fasse éprouver. Et celui que j'admire le plus dans ce domaine, c'est-à-dire dans l'histoire du silence, c'est Fromentin, l'écrivain français et peintre orientaliste qu'on ne lit plus guère, sinon son roman Dominique. Eh bien, dans son livre « En été dans le Sahara », il décrit admirablement le silence du désert, qui est le silence le plus fort, sans doute, dans ce temps du 19e siècle, c'est le silence qui est décrit avec le plus de force. Et il souligne notamment, dans notre perspective, que ce silence du désert qui est particulièrement intense, qui est le silence de la transcendance, qui est le silence d'Allah, tout ce que vous voulez, en même temps, est producteur d'une infinité de petits bruits. Alors, vous pourriez me dire que entendre le silence, c'est entendre le silence de la nature, etc., et qu'écouter le silence, c'est par exemple pour les mystiques ou surtout pour les hommes du XVIIe siècle comme Bossuet ou l'abbé de Rancé, c'est se rendre disponible à l'écoute de Dieu.
On va en parler demain, justement, du silence des prophètes, mais s'il fallait parler de la perception du silence avec les animaux, avec la flore, on se dit que peut-être que nous avons sans doute des perceptions différentes du silence.
Chacun, vous voulez dire, chaque homme, chacun individu. Ah oui, mais ça, alors il faut se plonger dans les sources du passé, puisque c'est un livre d'histoire que j'ai écrit, se plonger dans les sources du passé à la traque de personnages qui ont dit leurs émotions, c'est rare, par rapport à 100 personnes du passé, c'est infinitésimal, et qui ont en particulier, parmi ces émotions, dit l'impression que leur faisait le silence. Donc, le dossier, si vous voulez, est très difficile à constituer à cause de ça. Il n'est pas question d'aller aux archives, hein. Il n'est pas question d'aller aux archives départementales comme j'ai fait pendant 40 ans ou aux archives nationales. Vous ne trouverez rien sur le silence, vous trouverez des choses sur le paysage sonore. Mais sur le silence de chaque individu, c'est une traque très intéressante d'ailleurs, parce que durant la même période, vous avez raison, les gens n'éprouvent pas le silence de la même manière. Le silence d'aujourd'hui, par exemple, qui est déjà éprouvé par les gens du 19e, c'est l'envie d'être dans un endroit où il n'y a pas de fracas, où il n'y a pas de tapage, où il n'y a, disons, l'absence de bruit, quoi. Mais ce n'est pas ça, c'est pas le plus riche de rechercher le silence uniquement parce que on veut échapper au bruit. C'est un peu la tendance d'aujourd'hui, je crois, que lorsqu'on parle du désir de silence, c'est un silence qui n'est pas très riche, qui n'est pas très profond, qui n'a pas des textures particulièrement raffinées, mais qui est simplement le désir de ne pas être ennuyé, quoi, de ne pas être réveillé par le coq ou par une cloche intempestive ou
par le premier métro.
Voilà.
Alain Corbat, alors justement pour vous, c'est quoi un beau silence, un silence idéal, un silence total, un silence que vous aimez?
Ah, je ne me suis pas posé la question. Elle est intéressante. Alors, les silences qui ont été au cours, peut-être d'une vie et que les écrivains ont dit, le plus fort silence, c'est le silence de l'amour. Évidemment, quand deux êtres se rencontrent et se taisent, c'est entre eux, s'ils se plaisent, quelque chose de beaucoup plus fort que la parole. C'est ce que les symbolistes n'ont cessé de dire, hein, en particulier Metternich. Hein.
Et qu'est-ce que vous en dites, vous, Alain Corbin?
Ah, je crois que oui. Je pense, si vous voulez, j'ai un âge maintenant qui me donne un peu de souvenirs du passé, des passés, si vous voulez. Je pense que le silence est peut-être très fort entre un homme et une femme, par exemple, hein, si ils se comprennent, se sentent. C'est le coup de foudre sans parole, parce que le « je t'aime », comme dit Metternich, de dire « je t'aime », etc., bon, c'est galvaudé. D'une certaine façon, ça a pu être dit à plusieurs, et ça a sans doute été dit au cours d'une existence à plusieurs. Mais il y a, par-delà cette parole, il y a la possibilité d'une rencontre unique. Ça a beaucoup passionné non seulement les symbolistes, mais les gens du 19e. J'ai écrit il y a 2 ou 3 ans un petit livre intitulé « Les filles de rêve » en me demandant si finalement elles n'étaient pas disparues. C'est parce qu'il y avait toute une culture depuis le 17e, même au-delà, même avant ça, je veux dire, il y avait toute une culture des filles de rêve qui imprégnait en quelque sorte la conscience masculine. De la nécessité de rencontrer, de quêter des filles de rêve. Et là, le silence, je crois, jouait un grand rôle. Et ces filles de rêve, évidemment, étaient liées au modèle littéraire, parce qu'il s'agit là d'étudiants, en quelque sorte, d'une jeunesse un peu cultivée qui recherchait des filles de rêve.
Est-ce à dire, Alain Corbin, que pour vous, la définition du silence, c'est exprimer une émotion sans passer par la parole?
Oui. Oui. Il n'y a rien d'autre à dire. Je crois que la force du silence, dans sa profondeur, effectivement, peut ne pas passer par la parole. Alors que on serait tenté de croire que c'est le rappel incessant de la parole qui est le plus important. Il faut prendre son portable sans arrêt pour déclarer son amour aujourd'hui, je crois, quand les deux êtres sont séparés.
Alain Corbin, pour faire cette histoire du silence de la Renaissance à nos jours, édité par Albin Michel, vous expliquez en préambule que, pour une fois, l'historien que vous êtes n'est pas allé chercher de la documentation dans les archives, puisqu'il n'y a rien sur le silence. Rien
n'est. Non, il y a des choses sur le paysage sonore.
Mais rien sur le silence tel que vous l'entendez. Mmh. Mais au lieu de vous diriger vers les scientifiques pour mesurer le silence, trouver des pistes d'explication du silence. Vous avez préféré la littérature, la peinture, et demain, on verra les mystiques. Pourquoi ?
Parce que ce sont les véritables sources du silence, puisque parmi nos ancêtres, 99,9% ne se sont pas exprimés, n'ont pas laissé de journal intime, n'ont pas laissé de poésie, n'ont pas laissé d'autobiographie, ni on n'a pas retrouvé leur correspondance. Comment voulez-vous résume-t-on pas au 1% qui a dit ses émotions? L'histoire des émotions est obligatoirement à partir de traces qui sont très rares.
Écoutez le silence en compagnie d'Alain Corbin, notre série de la semaine. On se retrouve demain matin à la même heure. À demain.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mes deux invités ce matin, Suzelle Pietri et Gonzague Saint-Brice, pour nous parler du Festival de Cabourg. Demain s'ouvre le 30e Festival du film romantique, puisqu'il s'agit bien de ça. Suzelle Pietri, vous êtes la directrice du festival. Un festival entièrement consacré au romantisme, à l'amour.
Voilà, oui, depuis 30 ans, nous essayons de présenter des films qui parlent d'amour, qui parle de passion. La passion peut vous guider vers un autre être, mais également vers un art, vers un engagement, vers beaucoup de choses.
Et avec donc une sélection officielle pour...
Alors avec une sélection en compétition de films européens, internationaux, ou qui sont en général des premiers, deuxième ou troisième films. Alors ce n'est pas un choix définitif de notre part et une condition, mais souvent quand on est jeune réalisateur, eh bien le premier film, c'est un film qui parle d'amour.
Les belles histoires d'amour. Gonzague Saint-Brice, vous êtes un des fondateurs de ce festival.
Je suis le fondateur de ce festival du film romantique qui fête ses 30 ans. Et jamais je n'oublierai le rendez-vous où tout a commencé. Je venais de lancer un mouvement qui s'appelait le Nouveau Romantisme, de publier un livre qui s'appelait Le Romantisme Absolu, et je rencontre Bruno Cocatrix, le maire de Cabourg, le patron mythique de l'Olympia, accueillant, souriant et direct, l'idée que je lui avais présentée lui plut aussitôt. Il ne lui fallut que quelques secondes pour comprendre, acquiescer et applaudir. Le projet que je présentais au mythique directeur de l'Olympia, c'était simple. Créer à Cabourg, cité de bains de mer, mais aussi capitale des images, un festival international du film romantique qui ferait entrer la station à partir de la plage de la nostalgie dans le futur des films. Et à l'instant où il prononça son oui, un arc-en-ciel tomba de l'horizon sur la table, nappé de blanc, qui nous avait réunis, c'était un signe.
Ah ben voilà. Là, vous répétez votre discours de demain. Hein.
Ah ben, je vais d'abord le soumettre à Suzelle.
Alors, Suzelle, qu'en pensez-vous ?
Alors, écoutez, moi, je devais être quelque part entre le rose et le bleu ciel de l'arc-en-ciel, parce que je n'étais pas là à ce moment-là. J'ai commencé à travailler donc sur ce festival en 1984, hein, et on fête sa 30e édition simplement cette année, parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de festival dans les années 90, parce que vous savez, dans ces villes balnéaires, il faut des casinos pour recevoir des festivals, et quand vous n'avez pas de casino, il ne se passe plus rien. Donc il y a eu 2 ans d'interruption. Mais en 86, c'est une année importante pour le festival parce que nous déclenchons avec Jean-Pierre Buscat du film français un hommage à l'âge d'or hollywoodien et nous invitons Gene Tierney.
Ah oui.
Ouais, et alors là.
Et là, la magie commence, quoi. Parce que Gene Tierney, on va la chercher à Roissy et on se dit, mais comment nous allons la reconnaître? Personne ne l'avait vue. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous nos moyens aujourd'hui. Donc on se disait, comment est-elle? En fait, on ne l'a pas reconnue, mais on a vu un mouvement de foule. Les gens s'écartaient devant elle et elle est sortie, comme sortie d'un des films d'Otto Preminger, avec un renard gris argenté, hein, une cigarette. À l'époque, on fumait encore dans les aéroports. Hein, et c'était Gene Tierney. Elle est venue à Cabourg et je crois que Gonzague, ça nous a tous laissé...
Ça a été magnifique.
Et depuis, il y a beaucoup de stars qui viennent à Cabourg. Cette année aussi, il y aura encore une belle brochette de stars.
Il faut saluer le travail magnifique qu'a fait notre délégué général, Suzelle Pietri, parce que Cabourg, c'est le déclenchement continuel de la révélation des talents. C'est extraordinaire, à chaque nouvelle génération est née à Cabourg. Et on peut dire que Cabourg a révélé 239 artistes, 60 actrices, 70 acteurs. On peut dire que beaucoup de noms qu'on entend aujourd'hui ont commencé à être prononcés sur la plage romantique de Marcel Proust, de Lambert Wilson pour Rendez-vous, à Audrey Tautou pour Vénus Beauté, Guillaume Canet, Marion Cotillard, Raphaël Personnas pour La Princesse de Montpensier, de Bertrand Tavernier. Tous ces nouveaux noms sont nés à Cabourg.
Ils sont pas nés à Cabourg, mais ils ont été baptisés à Cabourg. Ça a été leur baptême médiatique. Voilà, donc c'est vrai, je me rappelle de Guillaume, c'était pour « Je règle mes pas sur les pas de mon père ».
Voilà.
C'était un très joli film. Marion, c'était pour « Le bleu des villes ». Voilà, oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qu'on a appris à connaître et à reconnaître.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Suzelle Pietri? C'est-à-dire, ne faites pas attention à toutes les stars qui sont présentes, qui seront présentes dès demain au Festival du film de Cabourg, c'est-à-dire Emmanuel Béart qui va diriger le jury, Sandrine Bonner, celle qui a commencé sa carrière avec À nos amours, qui sera présente avec vous. Il faut faire plutôt attention à ces nouveaux films, à ces premiers films qui risquent d'avoir... une histoire après Cabourg.
Bien sûr, et c'est justement la générosité de grandes stars comme Emmanuel Béart ou Sandrine Bonner qu'il faut saluer, parce que par leur présence, elles permettent d'attirer les lumières et elles les partagent avec des nouveaux venus, des newcomers, comme on dit aux États-Unis, qui débutent dans la profession. Et Dieu sait si ce n'est pas facile aujourd'hui.
Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faut surtout pas rater cette année?
Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas
rater? Vous pariez sur qui, par exemple?
Beaucoup de films qu'il faut aller voir, mais d'autres qui seront présents à Cabourg, d'autres non. Mais par exemple, à Cabourg, nous accueillons cette année dans le grand jury, parce qu'on aime bien leur faire aussi une place auprès des plus grands, hein, une jeune actrice qui s'appelle Julia Roy et qui va être révélée par un film de Benoît Jacquot, hein, début septembre. Donc ça, c'est une jeune fille, je crois vraiment, hein, qu'elle va nous éblouir. Dans les films qui sont présentés à Cabourg, il y a Charlotte Lebon, qui est formidable, que vous verrez dans une histoire absolument romanesque, un conte de fées à base de pingouins, où Guillaume Canet joue un savant fou. Cabourg, c'est des rencontres romantiques, poétiques, esthétique. C'est tout un cinéma qui, ailleurs, a moins le droit de citer et qui est reconnu.
Pourquoi ailleurs moins de droit de citer? Parce que ce sont des films populaires, vous voulez dire? Des histoires d'amour
Alors, ce sont des films populaires, ce sont des films qui font la part au rêve pur, parfois un peu même enfantin. Hein. C'est Le secret de la banquise, cette histoire d'amour fou d'une jeune laborantine incarnée par Charlotte Lebon. C'est un conte de fées, avec une fin qui n'est ni tragique ni terrible, mais qui est complètement fantasmagorique et inattendue. Donc ça, ce sont des films qui sont condamnés par le politiquement culturel d'aujourd'hui et qui sont encouragés par nous au nom du rêve.
Gonzague Sabrisse, vous prenez des notes ?
Oui.
Oui, pour dire quoi ? Voilà, il a terminé.
Oui. Ouais. Pour dire c'est quoi l'amour ? Une fulguration, une sublimation, une reconnaissance réciproque, soudaine et silencieuse, un éblouissement, la certitude qu'on vient de décacheter le flacon du parfum du bonheur. Le moment le plus beau, c'est quoi ? C'est quand enfin l'alliance relaie l'éclat du désir et tient les promesses de la passion. Cet instant parfait, destiné à durer une éternité, je l'appelle le romantisme absolu. Et quel plus beau lieu pour le vivre ou le revivre que la plage de Cabourg, dans les sables du temps, quand son festival fête ses 30 ans. Parce que le romantisme, c'est bien sûr un souffle de fraîcheur, mais c'est quand même aussi un idéal de fraternité, d'universalité. Et ce qu'il y a de formidable dans ces 30 ans de Cabourg, c'est que on est maintenant avec une ville de cinéphiles. Il y a des cinéphiles qui sont nés à Cabourg. Le public de Cabourg est un public cinéphile. Et ce qu'il y a de formidable aussi, c'est toutes les entrées qu'il y a pour le talent à Cabourg. Il y a une entrée film court, il y a une entrée film européen. Donc, tout est fait pour que les jeunes talents puissent exister, s'exprimer et être retenus.
Il y a des déambulations littéraires sur les traces de Proust, évidemment, on est à Cabourg, mais aussi la musique. La musique est très très présente avec cette section qui s'appelle « Par amour de la musique ».
Oui, où nous avons regroupé tous les films avec des thèmes musicaux forts, comme par exemple « Dans les forêts de Sibérie », un merveilleux film de Safine Bouk.
Je le reçois demain.
Ah bon, ah bah voyez,
bah oui, je serai à Cabourg dès demain pour l'ouverture. On est en partenariat à partir de cette année, le Festival de Cabourg et France Culture. Et mon premier invité est Safine Bouk. Tout le monde me dit le plus grand bien de ce film. Je le découvrirai demain.
Et la musique d'Ibrahim Malouf extraordinaire sur le lac Baïkal.
Il sera là, Ibrahim Malouf ?
Alors écoutez, on l'espère, mais je crois qu'il a beaucoup de concerts. Donc il va essayer de faire un détour par Cabourg dans un des 3 jours. Mais je crois qu'il est en concert et on comprend.
Suzelle Pietri, directrice du Festival du film de Cabourg. Les journées romantiques, ouverture demain de la 30e édition. Suzelle Pietri qui était accompagnée de Gonzague Sabrisse.
Et j'ai oublié de dire quelque chose.
Le fondateur du festival, ouais.
Oui, un seul mot, un mot de Proust qui pour moi décrit le cinéma. Il parle à propos justement de météo à Cabourg, de la liquide mobilité de la lumière.
C'est très très beau. Et enfin, ça y est, générique, l'émission est terminée. J'espère vous retrouver demain en direct de Cabourg et en compagnie de Safine Bouk qui présentera en exclusivité son dernier film dans les forêts de Sibérie et en première partie Alain Corbin pour l'histoire du silence. Bonne matinée, à demain.